Avec l'éditorialiste Anna Cabana, bonsoir Anna.
Bonsoir.
Bonsoir Anna Duhamel.
Bonsoir Alain.
Alors, la phrase du jour, je dis aux Français, pour nous essayer, il nous faut la majorité absolue. Elle a été prononcée par Jordan Bardella, qui aspire à aller à l'hôtel de Matignon. Il dit, je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République, je vais être en situation d'agir avec cette majorité absolue. Est-ce que ça veut dire qu'il a peur de Matignon, Alain Duhamel?
Je dirais qu'il y a trois interprétations qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles les unes avec les autres. Il y a le vertige, la menace et la tactique. Le vertige, c'est un homme de 28 ans, bientôt 29, qui est doué en politique incontestablement, qui a trouvé son image à lui, qui est solide, qui est plutôt pragmatique dans son extrémisme, et qui se trouve à la porte de Matignon, c'est-à-dire le poste le plus difficile politiquement de France, de très loin. Et il n'a jamais rien gouverné de sa vie. Et il peut être pris un petit peu de vertige. Il peut, comme on dit, avoir la boule au ventre en s'approchant, en se disant maintenant, c'est peut-être dans deux semaines, dans trois semaines. Bon, la deuxième hypothèse, c'est la menace. Si on relie ça à ce qu'a dit à plusieurs reprises Marine Le Pen, si on n'a pas la majorité absolue, c'est au fond au président de se retirer. Bon, ça, c'est la menace institutionnelle qui ne correspond absolument pas à la Constitution. Marine Le Pen devrait la relire, notamment l'article 12, dernière phrase. Mais c'est aussi une tentative de pression. Bon, et la troisième interprétation, c'est peut-être tout bêtement de la tactique, c'est-à-dire de dire aux Français « il me faut la majorité absolue si vous voulez que je fasse ce que je vous promets, et pour que j'ai la majorité absolue, allez-y tous, votez pour moi ». Les trois interprétations sont compatibles.
Alors, il y a une chose qu'il faut quand même éliminer, c'est la question sentimentale. Quand on dit, est-ce que Jordan Bardella a peur, n'est-ce pas, d'être Premier ministre? Alors, il faudrait que Jordan Bardella soit un homme à émotion. C'est-à-dire que ce qu'on sait de Jordan Bardella depuis son arrivée sur la scène politique, c'est qu'au fond, alors vous savez qu'il était surnommé le cyborg, que Robocop, et ce qu'on voit surtout, c'est que cyborg ou Robocop ou autre, c'est qu'il n'est pas à se laisser dominer par des émotions, il est toujours impassible, assez mécanique, assez froid, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de sourire, alors il sourit, mais même ses sourires sont un peu mécaniques. Donc la peur, moi je pardon, mais Jordan Bardella, la boule au ventre, j'y crois pas du tout. Ce que je crois, en revanche...
D'un mot, ensuite je vais se développer parce que c'est très intéressant.
Ne soyez pas condescendant, cher
pas
Alain Duhamel.
Pas du tout. Quelqu'un de 28 ans, enfin 29 dans quelques mois, n'ayant jamais exercé un pouvoir civil, et se trouvant à la porte de Matignon, pas dedans, mais devant la porte en tout cas, je n'en connais pas en France depuis Bonaparte.
Non mais attendez, qui est là quelque chose d'historique, oui, mais on a en face de nous, moi ce qui scrute
alors
beaucoup...
Alors si c'est pas la peur,
non,
c'est quoi?
Qui scrute beaucoup les personnages du roman politique, je peux vous dire que ce personnage-là, Bardella, il est tellement hermétique aux émotions qu'à soi seul, ça en fait, si vous voulez, ça en fait une figure atypique.
Alors s'il n'a pas peur, pourquoi il pose ses conditions pour Matignon?
Ce qu'on voit, c'est quand même l'habileté tactique de Gabriel Attal. Parce que si on se pose la question ce soir, de savoir, de se demander si Jordan Bardella a peur, c'est parce que Gabriel Attal, dans une de ses punchlines dont il a le secret, a dit qu'au fond, si Bardella posait des conditions comme il le fait, c'était un refus d'obstacle, et c'est ça qui a alimenté toute la petite musique du microcosme
médiatico-politique.
À la peur, j'y crois pas.
Alors pourquoi il pose ses conditions?
Mais Alain Duhamel l'a dit. Moi, je rends hommage à la sagacité d'Alain. La question tactique et le rapport de force, deux choses. Rapport de force avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, il dit « je ne veux pas être le collaborateur ». Souvenez-vous, c'était le mot employé par Nicolas Sarkozy dès l'été 2007 à propos de François Fillon. Donc, Sarkozy avait dit « ça n'est qu'un... le patron, c'est moi, Fillon, c'est un collaborateur ». Bardella dit « je ne veux pas être un collaborateur ». Et donnez-moi la majorité. Ça veut dire « mobilisez-vous ». Ça veut dire « ne croyez pas que c'est gagné ». Ne croyez pas que j'y suis déjà. Je n'irai pas si j'ai pas votre vote plein et entier. Faites de moi un Premier ministre fort. On est dans un calcul.
Investissez-moi.
On est dans un vrai calcul.
Il dit aux Français « investissez-moi ».
Voilà. Bien sûr.
Donc c'est logique politiquement.
C'est habile. C'est classique. Hein, quand on est sur le point de gagner, qu'on demande à tout le monde les moyens d'exercer le pouvoir, c'est pas nouveau, mais c'est malin. C'est malin, mais simplement, c'est dit, moi j'insiste là-dessus, sur quelqu'un de 28 ans qui n'a jamais gouverné.
Donc ça veut dire que c'est un risque.
Même
c'est un risque.
Un village donc ou c'est un quartier.
Oui, mais au-delà de, au-delà de son âge...
non, mais c'est important.
D'accord. Mais s'il a pas de... Oui, mais il faut faire attention sur les jugements d'âge, parce que... Mais,
28 ans, ça.
Dans les deux sens.
Oui, l'autre, j'étais au courant.
Son problème, c'est s'il n'a pas de majorité absolue, il sera à la merci de la moindre motion de censure, encore plus que les gouvernements Borne et Attal, puisque on imagine bien qu'il sera face à une assemblée très très hostile.
Vous avez tout à fait raison. S'il n'a pas la majorité absolue et s'il est quand même contraint d'aller à Matignon, d'abord il sera évidemment sous la menace immédiate de motion de censure et ensuite il sera terriblement gêné pour essayer de mettre en œuvre ce qu'il a envie de faire. C'est peut-être une bonne chose d'ailleurs qu'il puisse pas le faire, mais enfin, ça sera terriblement compliqué. Donc, il y a une conclusion politique, pas la conclusion du débat, mais une conclusion politique, c'est que on entre dans une période de crise politique d'un an. Je dis d'un an parce qu'il faut un an pour pouvoir de nouveau dissoudre. Et on risque d'avoir un an de crise politique.
Il y a une précision.
Oui.
Si le président démissionne, ça ne change rien.
Rien du tout.
Il faut toujours attendre un an pour une
dissolution. Rien du tout. C'est un an, c'est de dissolution à dissolution. Un an plein, même s'il y a un changement de président. Donc ça veut dire que s'il ne va pas à Matignon, s'il n'a pas les moyens de gouverner, s'il se retire, s'il est censuré, etc., on entre dans une période d'instabilité politique grave, même sans précédent.
On n'a jamais connu ça,
sans
République.
Sans précédent.
On a connu ça sous la quatrième.
Oui, mais pas d'un an. Non. Dans ce cas-là, au bout de trois mois, ça se résolvait mal, mais ça se résolvait. Non, là, c'est vraiment un an. Et dans cette hypothèse-là, c'est-à-dire s'il ne peut pas gouverner, mais s'il est largement en tête, la seule solution imaginable, c'est ce qu'on appelle un gouvernement de technicien. C'est-à-dire de trouver une figure rassurante, plutôt fédératrice et sans ambition personnelle pour la présidentielle. Et,
ça se trouve,
nécessité fait loi. Hein. Ça peut se trouver au Sénat, ailleurs. J'ai un ancien Premier ministre. Enfin, ça peut se trouver. Et qui s'entoure de techniciens. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord un pouvoir extrêmement faible, mais ça veut dire aussi
les affaires courantes.
Oui, c'est ça. Mais ça veut dire aussi, oui, mais les affaires courantes avec les fourches codines économiques. Hein.
Ouais, bien sûr. Bon,
et ça veut dire aussi, en réalité, on commence une campagne électorale d'un an.
Ah oui.
Là, on va en avoir deux semaines, trois, en comptant large.
Mais après, on va repartir sur une campagne très longue.
Un an.
Mais ça veut dire qu'au fond, Jordan Bardella a encore un argument à dégainer. Donc après l'argument tactique qui consiste à dire à ses électeurs et aux autres, investissez-moi, mobilisez-vous. Lui aussi va pouvoir dégainer l'argument de la Macronie, du camp macroniste, qui est c'est le chaos ou c'est moi. C'est-à-dire que non, mais on va, vous verrez qu'on va entendre cette petite musique-là.
Au deuxième tour.
Mais bien sûr, ça c'est la musique.
Il
c'est la musique.
Au deuxième tour.
Si vous voulez, c'est la musique suivante. C'est-à-dire que là, on les entend tous, la majorité présidentielle encore en place, n'est-ce pas? Cette rengaine-là qu'elle fait entendre. Eh bien, Bardella va nous le dire, parce qu'il va dire, là maintenant, vous pouvez pas me donner un demi-pouvoir, il va falloir me laisser,
si
me laisser les mains libres.
Si je suis en tête du premier tour, il va falloir confirmer,
si vous voulez, vous dites que ça va se jouer dans l'entre-deux-tours, mais vous allez voir qu'il le dira dès avant le premier tour, parce que c'est le point de bascule, si vous voulez. On est sur cette ligne de crête-là. Donc, en fait, le chaos, ce mot-là, il va être pris par tout le monde.
Il a d'autant plus intérêt à avoir une majorité absolue si jamais l'administration ou le pays se met en grève avec les syndicats, si le Rassemblement national arrive au pouvoir. Alors on a entendu la CGT appeler à voter, c'est inédit comme consigne de vote, hein, dès le premier tour pour le nouveau Front populaire.
Et donc, il peut y avoir un
blocage des structures même du pays, quoi, Alain Duhamel. D'où l'intérêt d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée.
Il y a une hypothèse forte qui est un an de campagne électorale pour des législatives dans un an. Il y a alors un vrai risque. Et le vrai risque, enfin, il y a un risque économique,
bien
en plus,
sûr.
Qui est gigantesque. Mais le vrai risque politique, c'est évidemment qu'il y ait des conflits dans la rue qui deviennent violents. C'est-à-dire qu'il y ait des manifestations massives contre l'arrivée au pouvoir de Bardella, mais qu'il y ait des réponses que les forces de l'ordre, qui sont plutôt quand même du côté de Bardella que du côté de la NUPES, soit un petit peu trop brutal, qu'il y ait des... Ça, à ce moment-là, tout peut dégénérer. C'est pour ça que moi, ce à quoi je compare le plus par gravité, par dramatisation, pas par nature, mais par gravité, dramatisation, c'est mai 68. Mmh. Et justement, c'est le moment où, parlant de De Gaulle, on disait, exactement comme Anna, qu'il y a de bonnes références, moi ou le chaos.
Mais le Rassemblement National anticipe, ils sont en train de bosser sur la cohabitation, sur la façon de garder le plus de pouvoir possible en cas de cohabitation. Et leur peur se porte pas seulement sur Emmanuel Macron, mais sur les institutions que sont le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes et le Conseil d'État. C'est-à-dire que ces trois institutions sont présidées par des socialistes.
Par les gens de gauche,
Voilà, Laurent Fabius, Pierre Moscovici et Didier Roland Tabuteau. Mais ces personnages-là et ces institutions surtout peuvent constituer des contre-pouvoirs. Voilà, ça fait partie. C'est-à-dire que là peut se jouer
Je suis d'accord que sur le plan politique, c'est sûrement une des dimensions. Mais pour moi, ce qui risque de peser beaucoup plus s'il essaye vraiment d'exercer le pouvoir, d'une part l'Europe et ses règles, qui sont quand même terriblement contraignantes pour un programme comme le sien. Pour un programme comme Emmanuel Macron, c'est plutôt une aide, les institutions européennes. Pour un pouvoir comme celui qu'exercerait Bardella, c'est franchement un handicap. Et puis, en dehors des règles européennes, il y a tout simplement les marchés qui ont déjà tendance à s'affoler. S'ils l'emportent, ça crée une telle instabilité.
Vous avez vu que les patrons ne demandent qu'à se laisser rassurer, quand même, Alain.
Les agences, attendez, les agences de notation et les marchés, il suffit pas que...
Je vous rappelle qu'une agence de notation a dégradé la France d'Emmanuel Macron,
Il est très possible de la dégrader beaucoup plus.
Vous écoutez.
Moi, je ne joue sur rien du tout. D'abord, vous ne savez pas ce que je souhaite. et je ne joue sur rien du tout. Mais en revanche, ce que je sais, parce que j'en ai l'expérience, c'est que si un pays sort des règles ou tout simplement des traditions ou même des présomptions simplement des marchés internationaux, ça nous tombe dessus avec une rapidité et une violence que nous, en France, on n'a jamais connu, mais que d'autres pays ont souvent connu.
Il ne vous a pas échappé, Alain, que dans la presse économique, on voit que les patrons se laissent compter fleurette par le Rassemblement national.
J'ai surtout vu, y compris aujourd'hui et hier, dans la presse économique, de sérieuses mises en garde.
Il y a les deux, mais ce qui est intéressant...
Et énormément d'anxiété.
Oui,
et j'ai assisté au fait, comme vous, que par exemple la FEP, qui regroupe les principales entreprises françaises, était déjà extrêmement interrogative.
Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est à ce que des patrons se laissent compter fleurette par le Rassemblement national. Ça, c'était plus sûr.
C'est-à-dire qu'entre le Front National et le nouveau Front Populaire, ils ont choisi entre le Front Populaire et le Rassemblement national.
C'est ça qui se joue.
Les deux perspectives, c'est quand même plutôt celle-là que la troisième.
On est mardi, sauf erreur de ma part, jeudi, après-demain, devant les instances patronales, les grands, les moyens, les petits, tous, ils font passer programmes, un oral, chacun doit présenter son programme. Si vous croyez qu'ils font ça par excès de confiance, à mon avis, ne voyez pas juste.
Mais il y a une immense défiance, mais elle est moins épaisse que ce qu'on pouvait imaginer, précisément parce que le nouveau Front Populaire inquiète encore plus le Rassemblement National.
Attendez, je suis pas en train de me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je suis pas en train de vous dire que le patronat joue la NUPES, évidemment.
Oui, mais aujourd'hui le patronat considère
que la NUPES et le Rassemblement National, c'est Caribou Silla.
Mais alors, dans ce cas-là, à vous écouter, c'est pas un cadeau que Marine Le Pen a fait à Jordan Bardella en lui laissant Matignon.
L'objectif de Marine Le Pen n'est pas d'être Premier ministre, c'est d'être président de la République.
Oui, mais si Jordan Bardella se casse la gueule à Matignon,
ça ne l'aide pas. Mais si c'est elle-même, c'est la fin de tout. Donc elle préfère prendre un risque
si c'est elle et qu'elle tombe, c'est peut-être plus pour Jordan Bardella derrière. Après le coup d'après.
Absolument.
Voilà.
Donc Bardella, Attal, même tronc, même combat.
Oui, mais en même temps.
Chronologique, je veux dire.
Bien sûr. Oui.
Pas tout à fait, même combat politique. Non, mais Marine Le Pen, elle a à la fois intérêt à ce qu'il y aille, mais intérêt à ce qu'il s'en sorte pas si mal. D'où la pression aussi qui s'exerce sur Jordan Bardella. C'est-à-dire que là, il peut pas, si vous voulez, montrer, faire pâle figure dans une cohabitation.
Mais d'un autre côté, comme aucun des deux
n'a jamais gouverné
et n'est un expert en économie, je vois mal l'un faire pression sur l'autre au nom de quoi ?
Il y a une antériorité de Marine Le Pen qui peut.
François Hollande n'avait jamais gouverné non plus.
Non, mais pas en économie.
Mais moi, je vous parle en économie.
Mais François Hollande n'avait jamais gouverné non plus avant d'arriver à l'Élysée. Il n'avait jamais été ministre.
D'accord, je suis absolument d'accord. Mais d'une part.
Il n'était pas si jeune, vous répondrez.
D'une part, il avait 20 ans d'expérience.
Et Marine Le Pen aussi.
Et attends, mais je peux finir ma phrase.
Pardon.
Bon, et d'autre part, vous allez me dire que ça n'est pas le critère des critères, mais c'est quand même une présomption. Il avait justement enseigné à Sciences Po la politique économique.
Ah, tout va bien.
Ça prouve qu'il avait quand même un minimum de connaissances.
Mais il
avait
aussi.
Je ne suis pas sûr que Marine Le Pen ait enseigné l'économie à Sciences Po.
François Hollande a été un très grand président sur le terrain économique, Alain Duhamel, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas nous dire que ça fait ça quand même.
Il a été un grand président quand il a changé de politique au milieu de son
quinquennat. Le pays était quand même endetté.
C'était, sauf erreur de ma part, en janvier 2014. En janvier 2014...
Il a arrêté d'indexer l'indexation de l'ensemble de sa politique sur la version.
Surtout, il a laissé sa fiscalité de côté pour le soulagement général.